Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le 7 décembre 1965 était publié le décret Ad Gentes Divinitus. Les pères conciliaires venaient ainsi rappeler l'activité missionnaire de l'Église dont chacun est responsable, un engagement au service de la mission de Dieu. Explication. Ad Gentes, c'est le décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Pour nous le présenter, je reçois aujourd'hui le frère Gilles Denroc, dominicain de la province de Toulouse. Bonjour frère Gilles.
Bonjour Isabelle.
Merci de votre présence pour nous accompagner dans la compréhension de ce texte capital du Concile Vatican II. Est-ce qu'on pourrait, en préambule, rappeler le contexte dans lequel ce texte a été discuté et adopté?
Alors, il y a la discussion en interne du Concile qui a été assez houleuse, assez tumultueuse, et qui a même nécessité l'intervention du pape de ce moment-là, c'est-à-dire Saint Paul VI, qui est intervenu pour dire qu'il était de la responsabilité du pape et des pères conciliaires d'annoncer l'Évangile jusqu'aux limites du monde. Et donc, on ne pouvait pas empêcher cette mission. Et cela aboutit finalement au texte que nous connaissons, et on voit son importance et aussi le contexte historique général qui pose entre le Concile Vatican I et le Concile Vatican II, donc de 1870 à 1900, là vous avez cité la fin, 65, oui. Vraiment ce que le pape François appelle un changement d'époque, puisqu'il y a eu deux guerres mondiales et la guerre de 70 a elle-même arrêté un concile. Et quand on voit les photos de Strasbourg, les premières photos que l'on voit, on voit que la guerre commence à toucher les populations civiles, les villes, à détruire. Et donc là, il y a un vrai changement d'époque entre avant, qui était le contexte de l'Europe et de ses colonies diverses, et puis le contexte mondial, guerre mondiale, économie mondiale, ONU, 1950, Bandung, c'est les premières, l'accord de Bandung, c'est les premières émancipations des nations africaines, d'Asie, d'Amérique latine, etc. Enfin, Amérique latine, c'était auparavant, mais donc il y a ce contexte. En France, pensons, 1962, les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie. Ouais. Et donc, on voit qu'il y a une redistribution générale de l'espace de la planète et comment le Concile va pouvoir faire face, d'abord regarder ce qui se passe. Et c'est ces différents regards entre l'Europe et le reste du monde qui a constitué un peu, d'une certaine manière, la difficulté de l'écriture de Ad Gentes, puisque c'était préparé par un organe centralisé qui était à Rome, Propaganda Fide, la promotion de la foi. C'est pas la propagande, hein, c'est, il faut mal traduire,
attention.
C'est la promotion de la foi dans le monde, et puis le fait qu'il y a des jeunes églises qui émergent dans les pays émergents aussi, etc. Donc c'est ce contexte qui est extrêmement riche parce qu'il est concret. Et c'est en quelque sorte Ad Gentes et le décret sur l'œcuménisme, peut-être aussi sur les religions du monde, sont les trois traités qui vont développer concrètement le grand traité de l'Église, qui est Lumen Gentium.
Mais justement, Lumen Gentium parle aussi de la mission de l'Église. En quoi ce décret Ad Gentes, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau finalement? Quelle était son intention?
C'est une mise en application, de même que l'œcuménisme. On voit bien, de même que le fait du pluralisme religieux dans le monde. Nostra Aetate répond à une situation concrète. L'œcuménisme répond à une situation concrète, autant en Europe que finalement dans le monde avec les différentes églises. Les sept capitales des églises qui arrivent au XXe siècle, si je puis dire, sont en Europe. Et c'est en Europe que le déchirement des guerres va avoir une onde de choc dans le monde entier. Comment est-il possible que des pays de chrétienté ou d'ex-chrétienté se fassent la guerre? Il y a là quelque chose qui est une interrogation que le monde entier porte. Vous savez, quand j'ai dû me déplacer pas mal et voyager dans ma vie dominicaine, et des discussions très sérieuses, j'allais dire, dans les 5 continents, on m'a dit, mais vous, l'Europe, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Quel exemple vous avez donné?
Deux guerres mondiales. Qu'est-ce que vous avez à nous
dire? Entre nations chrétiennes.
Voilà.
Quel exemple. Oui. C'est vrai, ça interroge. Ce décret Ad Gentes donne dans son préambule... Le devoir des successeurs des apôtres est de perpétuer donc l'œuvre du Christ afin que la parole de Dieu soit divulguée et glorifiée, le royaume de Dieu annoncé et instauré dans le monde entier. Finalement, c'est une continuité.
Voilà. Mais en même temps, ce que vous venez de citer, le préambule et puis le chapitre premier, hein, les principes doctrinaux, sont une reprise extrêmement intéressante de la nouvelle manière dont l'Église se comprend dans Lumen Gentium. Elle ne se comprend plus comme dans Vatican I, d'une certaine manière, comme une société parfaite couronnant la pyramide des cultures et des peuples et des nations du monde entier, mais elle se comprend comme peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et ça, c'est non seulement c'est une reprise à l'intérieur même de la vie de la Trinité, et la vie de la Trinité, c'est une vie d'échange et une vie d'amour, de connaissance et d'amour. Et donc, c'est dans le mouvement même, la dynamique trinitaire, que l'Église se situe. Et on comprend dès lors qu'il y a le Père qui préside à l'unité du genre humain, c'est-à-dire toute l'humanité a un père, c'est une affirmation de foi. Et puis, il y a une parole créatrice en Dieu, et cette parole, le Verbe, qui se diffuse dans le monde, d'autant plus qu'il y a incarnation, Dieu s'est fait homme, et il y a l'Esprit Saint qui nous pousse à faire de toutes les nations, jusqu'aux limites du monde, des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment dans la Trinité qu'il faut commencer à situer l'activité missionnaire.
Oui. Et cette Trinité, elle définit finalement le terme de mission?
Oui, puisque dans le fond... C'est la vision déjà de saint Irénée au IIe siècle. Le Père envoie son Fils bien-aimé et son Esprit de paix et d'amour, envoie dans le monde et d'une certaine manière cherche à être reconnu, non pas d'abord en général, mais par l'activité, les missions que le Fils et l'Esprit effectuent dans l'histoire et la géographie du monde tel qu'il est.
Oui. Est-ce qu'on peut donner une définition de la mission telle que les pères conciliaires l'entendaient?
Alors, il faudrait dire d'abord que le concile se comprend comme missionnaire. C'est la première affirmation. Elle vient vraiment de l'appel du pape Jean XXIII. L'Église est missionnaire
par essence,
en elle-même. Mais c'est en même temps affirmé à partir de tout le renouveau biblique, père de l'Église, liturgique du XXe siècle, entre les deux, Vatican I et II, et qui a permis de réaffirmer que le Christ a une mission universelle. On en a, par exemple, en 1920, je crois, l'affirmation du Christ, roi de l'univers. Oui. Donc, il y a quelque chose qui dépasse et transcende tout ce qui, auparavant, dans l'histoire, a été frontière, morcellement. Et mon Christ est supérieur au tien, si je puis dire. Et puis aussi, avouons-le, un déficit d'Esprit Saint dans la théologie et dans la pastorale.
Ça a été une redécouverte du Concile. Hein.
Absolument. Donc, on comprend que l'émission du Fils bien-aimé et de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, sont vraiment l'appropriation, enfin le domaine, l'espace de la mission s'ouvre jusqu'aux limites du monde et même jusqu'aux limites de l'univers parce que le Fils et l'Esprit rendent compte que le Père est créateur et que donc l'amour de Dieu le Père habite toutes les poussières et les parcelles et les éléments du monde et de l'univers. Et là, pour le coup, tout est lié, au sens que toutes ces particules d'amour, si je puis dire, sont rassemblées par l'Esprit et éclairées par la parole de Dieu qui rend vivante la vie tout court.
La vie tout court, oui. Ce décret Ad Gentes est composé, nous l'avons dit, d'un préambule. Il y a ensuite 6 chapitres et une conclusion. Est-ce que vous pouvez nous donner, frère Gidenranc, un petit peu le déroulement de ce texte?
Donc, j'ai déjà dit que c'était une synthèse qui avait été un peu difficile. Mais c'est étonnant, le résultat, parce que il manifeste la cohérence de tous les textes différents, les 16 décrets qui composent le Concile Vatican II. Il y a une cohérence, et pour vraiment bien lire Ad Gentes, il faut s'appuyer donc sur, effectivement, Lumen Gentium, sur l'Église, avec aussi la touche de la tradition, parce que plus on s'ouvre à l'universel, plus la racine doit être vivante. Et puis, aussi, c'est Gaudium et Spes, qui est le contexte de la compréhension de l'homme, de la société, de l'histoire. Alors, dans l'histoire, tout cela est mêlé. Alors, nous avons un développement assez cohérent, puisque le premier chapitre, c'est à mon avis le plus important, puisqu'il va remettre ensemble tous les principes d'écriture des textes conciliaires. Donc, c'est les principes doctrinaux, je l'ai dit, c'est la reprise de Lumen Gentium, l'Église du Père, peuple de Dieu, du Fils, corps du Christ et de l'Esprit Saint, temple de l'Esprit, et qui fonde l'activité missionnaire. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est l'activité missionnaire en elle-même. Hein. Elle existe. Elle existe, mais elle existe depuis les débuts. Ce n'est pas la naissance de la mission au XXe siècle. Il s'agit de revoir en quoi la tradition a repris tout et fait advenir aussi différents critères de la vie missionnaire. Hein. Donc, et c'est aussi à souligner, ceci se fonde sur un texte, à mon avis, majeur de Saint Paul VI, Ecclesiam Suam. Ecclesiam Suam, qu'il a proposé en 1964, une encyclique, qui montre que Dieu est lui-même dialogue, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il a une parole créatrice. Donc, il y a parole promulguée, prononcée sur le monde. Comment l'écouter? Comment entendre la parole de Dieu, non seulement dans la création, mais aussi une parole qui va sauver par la croix et la résurrection, l'événement pascal. Donc, il y a un dialogue depuis Dieu jusqu'à nous. Ouais. Et même peut-être que la personne humaine, c'est un peu développé dans Gaudium et Spes, la personne humaine, elle est en dialogue entre elle-même. Et on a une anthropologie qui dépasse la philosophie grecque et classique de l'âme et du corps, peu à peu, on voit le corps, le cœur, l'esprit, la circulation, l'unification de la personne par, justement, la création et le salut. Donc ça, c'est surtout le deuxième chapitre. Ensuite, alors, c'est ça qui est aussi une reprise plutôt qu'une redécouverte, mais du temps des pères de l'Église, c'est l'autonomie du diocèse, de la région, de la province, et comment l'unité de l'Église se fait à partir de la géographie et donc de l'espace concret des relations humaines que sont les paroisses et diocèses, et donc l'organisation des églises particulières. Et avec ceci, qu'au XXe siècle, naissent des églises, les jeunes églises.
Notamment en Afrique, comme vous l'avez dit.
Notamment en Afrique, mais c'est aussi l'Amérique latine, mais c'est aussi l'Asie. Il faut penser à tout. Enfin, par exemple, l'océan Indien, il y a Madagascar qui prend une forme particulière. Il y a l'Australie, il y a plein de possibilités. Il y a même le Japon, à cause de la dernière guerre mondiale. Après, vous avez un peu plus de bureaucratie, si vous voulez. Mais enfin, bon.
C'est plutôt des points d'organisation.
Des points d'organisation, oui. Vous avez raison, je retire le mot bureaucratie, mais il faut bien des... Voilà. Donc, les missionnaires eux-mêmes et l'organisation de la vie, c'est le chapitre 5e, dont je crois que c'est le plus pratico-pratique. Et puis, comment s'organise, depuis la diversité des situations concrètes, comment s'organise une nouvelle coopération entre les églises du Nord et du Sud, les églises du Sud et du Sud, etc. Donc ça, c'est... voilà. Et on en arrive à la conclusion, qui est une très belle synthèse, à mon avis, pour situer ce texte à... Gentes.
Ad gentes. Est-ce que vous diriez, frère Gilles Denroc, que ce texte est dépassé ou au contraire, il est encore d'une actualité aujourd'hui?
Alors, toutes les parties pratiques sont en auto-dépassement parce que la situation change.
Du fait du développement des églises, justement.
Oui, et puis du fait aussi des changements planétaires, la mondialisation de l'économie. Mais à l'heure actuelle, même si on le voit dans le voyage du pape Léon XIV en Afrique, il est toujours fait appel à des coopérations, mais on voit que la place est de plus en plus donnée aux églises locales, qui doivent aussi avoir des relations, comme on dit, sud-sud, de plus en plus, le maillage de plus en plus intense. Donc là, il y a des nouveautés. Il y a eu les synodes sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur l'Amazonie, sur l'Asie. Tout cela a fait évoluer, puis... c'est une des grandes préoccupations quand même de Saint Jean-Paul II, et c'est une grande préoccupation du pape François. Et on voit déjà avec ses voyages que Léon XIV s'inscrit dans une église qui va partout, et non
universel.
Pas une église qui se concentre sur elle-même.
Oui. Et qui ne reste pas seulement à Rome, notamment, et en Europe, en tout cas.
Non seulement à Rome, mais en contact. Par exemple, les chrétiens d'Algérie sont très peu nombreux.
Oui, ils sont minoritaires.
Mais il y a une présence d'église. Et comment cette présence d'église est signifiante de ce qu'est l'église, pas seulement quand elle est entre soi, si je puis dire, mais quand elle est poreuse et qu'elle écoute, elle regarde, elle intervient, elle dit une forme de lumière pour toutes les nations.
Oui. Après cette présentation générale du décret Lumen Gentium, Ad Gentes, je vous propose, frère Gilles Denroc, de marquer une pause. Nous écoutons « Me voici, envoie-moi », composé par les œuvres pontificales missionnaires.
«
Isabelle Duché.
De retour avec le frère Gilles Denroc, dominicain, pour nous présenter le décret Ad Gentes, publié dans le cadre du Concile Vatican II. Après avoir posé en première partie de cette émission le cadre et le déroulement de ce texte, on se pose la question de cette formule hors de l'Église, point de salut. Comment ce décret Ad Gentes nous éclaire sur cet adage?
Alors ça, c'est quand même une question compliquée, Isabelle.
Allons bon, on commence fort.
Mais c'est très bien. En réalité, il faut regarder le déploiement de l'Église dans le monde, dans l'histoire, avec jusqu'au XIIIe siècle, la première partie, l'Église est minoritaire, elle est évangélisatrice, les apôtres, qui vont donc porter la bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde. Donc les formules fondamentales, c'est pas hors de l'Église, point de salut, qui va venir au XIXe siècle, c'est aller, faites de toutes les nations, des disciples, baptisez-les, et là on voit bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Lumen Gentium retrouve ce souffle premier apostolique, si vous voulez. Et puis aussi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc tout le message de Saint Paul aussi, qui est apôtre des nations. Et du reste, c'est très intéressant que le pape Jean XXIII a toujours voulu comparer le Concile de Jérusalem, acte 15, acte des apôtres, et le Concile Vatican II. Le Concile de Jérusalem, c'est dépasser un obstacle. Comment annoncer la bonne nouvelle au monde entier s'il faut garder des coutumes de nourriture, de ceci.
Enfin, tous les rites juifs.
Voilà. Donc, la formule, si vous voulez, c'est qu'il cite lui-même, Jean 23, « sortir de la sécurité juive pour s'ouvrir à une perspective nouvelle. Hein? » Vatican, Acte des Apôtres, Concile de Jérusalem. Concile Vatican II, comment enlever les obstacles qui se sont créés dans l'histoire à l'intérieur de l'Église, une histoire complexe, pour aller rejoindre toute l'humanité. Hein? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors jusqu'au XIIIe siècle, après, du 5e, 4e, 5e au XIIIe siècle, c'est un autre monde, c'est l'Église se comprend comme l'humanité sauvée. Donc, elle a pris quelque chose de l'Empire romain et de la culture grecque, et elle fait quelque chose de magnifique, mais à l'intérieur de ce qu'on a appelé une chrétienté. Alors, ceux qui sont hors de cette chrétienté, qui sont-ils? Alors, jusqu'au XIIIe siècle, on dit que les païens ont refusé Dieu, d'une certaine manière. Mais il y a cet événement majeur de la découverte de l'Amérique. Donc en 1492, Christophe Colomb, et c'est donc le début de la Renaissance, enfin, et toute une période qui ouvre à la période moderne. Alors qui sont-ils, ceux que l'on rencontre, comme les Amérindiens, et qui ne connaissent pas le Christ? Donc il y a une première... vocation missionnaire,
évangélisation,
mais qui va jusqu'en Chine, qui le Japon, enfin tout, on va vers des pays qu'on ne connaît pas. Comment découvrir leur culture, c'est un problème énorme. Et puis il y a cette tentative de reprendre le mot de chrétienté par le pape Pie IX. Et là, il y a une question donc, qui formule ce « hors de l'Église, pas de salut, mais ». Et c'est ce qu'on oublie de citer quand on parle de cette époque. « Mais le païen ne sera pas puni sans faute de sa part. » Donc, il y a quelque chose là, on ne sait pas. Il y a « hors de l'Église », c'est vrai. C'est par le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la proclamation de la parole de Dieu, par la connaissance que Dieu se révèle en Jésus-Christ, c'est par là qu'on est sauvé. Donc il y a une affirmation assez centrale,
par les
sacrements, la parole de Dieu, la vie de la charité, etc. Mais comment comprendre ce qui n'est pas, c'est-à-dire comment comprendre, dans le fond, le pluralisme des situations.
Que tous soient sauvés alors que certains ne font pas partie de l'Église.
Non seulement ils ne font pas partie de l'Église, mais il y a des degrés complètement divers. Et Gaudium et Spes va même parler de l'athéisme, enfin de formule de refus de Dieu. Comment tout ça s'organise, hein? Et le païen, justement, n'est pas puni sans faute de sa part. Donc, il y a un discernement à poser. Comment se passe ce discernement? Eh bien, entre Pie IX, si vous voulez, le 19e siècle, et la fin du 20e siècle, le Concile Vatican II, est-ce que c'est l'Église qui pose ce discernement ou ce jugement? C'est-à-dire, dis toi, tu es sauvé, toi, tu ne l'es pas. Toi, ceci, toi, cela. Ou bien, est-ce que ce que dit Agentes, et c'est vraiment passionnant, ce discernement appartient à Dieu et non pas à nous. Voilà, c'est un basculement énorme, ça change complètement la perspective.
Et c'est une façon aussi de donner à chaque homme sa dignité, toute sa dignité.
Absolument. Parce que tout homme est créé par Dieu. Encore une fois, c'est l'unité entre la création et le salut. Et il faut retrouver cette unité pour pouvoir nous tenir en présence. Et nous savons par ailleurs que l'Église ne peut pas imposer la foi y compris par les armes, y compris ce que Charlemagne a fait dans l'Europe Nord, par exemple, ou bien par la civilisation du type colonie et toutes les autres tentatives plus ou moins réussies dans l'histoire d'expansion de ceci, de cela. Mmh. Donc là, nous sommes aujourd'hui devant une Église mondiale et qui sait que le salut qu'elle porte jusqu'aux limites du monde est un salut d'amour qui s'adresse à des libertés. Et c'est le grand mot, respecter la dignité, la liberté de l'autre, mais lui proposer, j'allais dire, un plus de vie.
Oui, il y a une annonce explicite quand même. Hein.
Un plus, ouais. Voilà. Et donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Après, on peut dire aussi, autre moment récent de l'histoire, par exemple Paul VI en 1975, qui propose une vraie synthèse de tous les textes du Concile en vue de l'évangélisation, 1975, Evangelii Nuntiandi, qui est un texte formidable. Et puis, le fait que l'humanité, les membres de l'humanité, les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde, peuvent donc s'incorporer au corps du Christ de manière diverse, avec des degrés d'incorporation, dont le plus important est la charité. C'est l'exercice même de la charité qui est inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est donc Dieu qui effectue les différents modes d'incorporation à l'Église du Christ, qui a une dimension visible, parce que le Verbe s'est fait chair, c'est le visage de Jésus, c'est ceux qu'il a appelés, c'est ceux qu'il continue d'appeler, et qui, voilà.
Et donc ça passe par les laïcs, les prêtres, les religieux,
voilà.
Tous ceux qui forment ce peuple de Dieu.
Oui, mais Ad Gentes a quand même plus loin. Même si nous sommes tous missionnaires, ce que dit plus ou moins justement Paul VI, ce que redit Jean-Paul II, ce que redit Benoît XVI, enfin, on a vraiment là une cohérence, et bien sûr le pape François et Léon XIV, enfin, là on a une continuité post-Concile Vatican II qui est impressionnante.
Oui. Hein.
Et parce qu'on est dans les 60 ans après, donc vous voyez, c'est du consistant. Et c'est le cœur un peu de la mission de l'Église aujourd'hui. En même temps que tous sont missionnaires, il faut qu'il y ait une mission explicite, visible, et qui soit en cohérence. L'annonce du Christ est une annonce qui n'est pas anonyme. Je vous parle, vous vous souvenez peut-être des chrétiens anonymes d'après-concile. Ça, c'est
l'enfouissement.
Karl Rahner, l'enfouissement. Après tout, mais tout le monde pratique la charité. Il y a des communistes, des athées qui sont meilleurs que nous. Enfin, tous ces débats, oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas à nous d'effectuer ce discernement en forme de jugement. C'est à Dieu de le faire lui-même jusqu'au dernier souffle de la vie d'un de ses enfants. C'est à lui d'agir. Je crois que là, c'est passionnant, parce qu'en même temps, il faut expliciter,
oui.
Et en même temps, il faut expliciter dans le cadre d'un dialogue de liberté.
Oui, et en laissant, comme vous dites, Dieu agir, et donc en étant à l'écoute de l'Esprit-Saint, pour avoir comme font les apôtres quand ils annoncent le Christ et la résurrection, avoir la bonne formule, le bon mot pour toucher les cœurs. Je voudrais qu'on termine cette émission par ce paragraphe 14. Il est consacré au catéchuménat et c'est vrai que 60 ans après, on a une arrivée massive des catéchumènes dans l'Église. En quoi ce décret Ad Gentes est-il prophétique, frère Gilles?
Alors, il est d'abord enraciné dans l'essentiel de la tradition. Je vous cite juste, ça ne vient pas d'Agentes, mais c'est ce paragraphe-là qui est dans les débats des sept brouillons.
Les fameux.
C'est comme ça que je les ai poursuivis pour voir. Devenu conforme à l'image du Christ premier-né d'une multitude de frères, le chrétien reçoit les prémices de l'Esprit qui le rendent capable d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Par cet esprit gage de l'héritage, c'est tout l'homme qui est intérieurement renouvelé dans l'attente de la rédemption du corps. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Telle est la qualité et la grandeur du mystère de l'homme. La dignité, c'est l'expression d'un mystère beaucoup plus grand. Ce mystère que la révélation chrétienne fait briller aux yeux des croyants. C'est donc par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de son évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité, par sa mort, il a vaincu la mort, il nous a abondamment donné la vie pour que, devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l'esprit « Abba, Père ». Ça, c'est Gaudium et Spes, numéro 22, un numéro absolument magnifique. Et en temps pascal, je voulais le citer.
Oui.
Et c'est effectivement à notre époque et récemment qu'il y a un renouveau des baptisés adultes. Alors, c'est là que Agentes est prophétique, en même temps que Agentes rappelle la tradition vivante de l'Église. Vivante Église, hein, je me permets un clin d'œil quand même. Et la tradition vivante de l'Église, c'est que les premiers baptisés sont des adultes, à commencer par les apôtres, et même à commencer par Jésus lui-même, qui, au
baptisé
début de sa
Jean-Baptiste.
Vie publique. Voilà. Et donc, on comprend très bien que on puisse avoir un baptême, par exemple, dès les Actes des Apôtres, du centurion et de toute sa maisonnée. Hein, c'est pas seulement d'ailleurs les femmes, enfants, mais même les esclaves qui étaient dans la famille.
Oui, c'est assez impressionnant.
Et toute la maisonnée. On comprend que là, il y a une annonce très forte et je suis absolument pas contre le baptême des enfants. Mais tous les missionnaires, quand on regarde les écrits depuis 19e, 20e, vous disent le baptême des enfants, c'est un problème difficile parce qu'il faut discerner si les parents demandent le baptême pour guérir ou se protéger des esprits ou autres, ou pour faire plaisir au père, ou pour être comme les Blancs, comme on m'a dit. Moi, je suis un missionnaire de 20 ans en Haïti.
Oui, vous êtes resté en Haïti.
Et il faut être baptisé pour être comme les Blancs.
Oui. Enfin, là aussi, il y a un discernement.
Il y a un discernement que les situations de mission ont posé. Et justement, c'est ce que les jeunes églises vont apporter à Agentes. Ben, les jeunes églises, elles disent, ben, nous, on rencontre des adultes. On rencontre des adultes qui, eux, ont déjà une vie, des choix de vie, des choix religieux, et qui viennent devant nous. Et il y a tout un dialogue, un discernement, une écoute
aussi,
qui est celui de l'Église d'aujourd'hui en Europe.
Oui.
Est-ce que, et c'est la grande transformation, en ce sens, Agentes, mais tout le Concile est prophétique, est-ce que nous saurons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église à travers ces personnes qui frappent à la porte, qui ont donc toute une vie et qui ne sont pas comblées par les sociétés, les cultures dans lesquelles ils sont immergés? Ils viennent, ils frappent à la porte et nous disent, parfois, sans savoir le formuler, « Je ne suis pas comblé je cherche un plus, un plus de vie,
un sens.
Un sens, un plus, un mieux, un je ne sais quoi qui me rendra plus moi-même, plus humain et peut-être plus chrétien, si je puis dire.
Ça.
Et savoir écouter cela qui dépasse tous les cadres des catéchèses précédentes, qui dépasse tous les cadres de la culture européenne, même la plus contemporaine. Ça dépasse les cadres des recherches, mettons, de Californie sur l'homo novus, toutes ces questions hyper motivantes pour l'argent et la technique du monde entier. Derrière ça, il y a des êtres humains qui viennent nous dire « L'Église a un trésor. On veut participer à ce trésor. Et ce trésor, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Et ce trésor-là, j'en ai soif, je ne sais pas.
Et donnez-le-moi.
Donnez-le-moi.
Oui.
Et le donner va demander à une véritable transformation de l'Église en une Église fraternelle qui sait écouter l'existence, pas seulement des questionnements abstraits ou intellectuels. Et ça passe par les formulations qu'il faut donner, mais c'est au-delà de ces formulations. C'est un « je ne sais quoi » pour nous. Et comment écouter du « je ne sais quoi » quand on est habitué à, dès qu'une question vous est posée, je pense beaucoup de prêtres, de chrétiens, on a déjà une réponse.
Oui.
Mais non, la formulation de cette réponse va prendre beaucoup plus de temps parce qu'elle demande beaucoup plus d'écoute. Mais en même temps, c'est un enjeu magnifique.
Exactement, un enjeu magnifique. Merci beaucoup, frère Gilles Denroc. Vous avez présenté aujourd'hui la constitution Ad Gentes sur l'activité missionnaire de l'Église. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.